chapitre 3, versets 14 à 18. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Quiconque haït son frère est un meurtrier. Et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Si quelqu'un possède des biens du monde et que, voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et en vérité. Et nous lirons aussi en Jean, au chapitre 13, versets 34 à 35. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Et je vous invite à vous lever pour chanter au cantique 207. Esprit Saint, descende sur nous et nous aide à mieux comprendre ta parole et à ensuite la diffuser autour de nous. Amen. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Quiconque haït son frère est un meurtrier. J'ai cherché cette définition de la haine dans le dictionnaire. Voici ce que j'ai lu. Sentiment violent qui pousse à vouloir du mal à quelqu'un et à se réjouir du mal qui lui arrive. Comme bon chrétien, je me suis dit, non, jamais, je n'ai eu de haine envers qui que ce soit. En disant cette définition et en voulant creuser profondément en moi et en voulant être vraiment honnête avec moi-même, je me suis dit, si, peut-être, oui, cela m'est arrivé, de me réjouir du mal que quelqu'un subissait parce qu'auparavant il m'avait fait du mal. Et le Seigneur nous dit que ce n'est pas bien. Alors le but de cette prédication n'est pas de nous faire culpabiliser, hein, loin de là, ce n'est pas le but d'une prédication, mais de nous aider à prendre conscience de nos faiblesses afin que Christ puisse nous en débarrasser. Mon but n'est pas de vous dire « vous êtes tous pécheurs, hein, vous allez tous haïr un jour ou l'autre votre frère et sœur en Christ ». Non, ce n'est pas ça. Le but c'est que nous puissions nous rendre compte de nos faiblesses, et oui, là, quelquefois, ça peut m'arriver, je dois être vigilant, que Christ vive en moi, qu'il me débarrasse de tout ça. Je reviens souvent dans mes prédications sur ma définition du chrétien. Avec le peu d'expérience que j'ai, je pense qu'un chrétien, c'est une personne qui est en marche vers le Seigneur. C'est une personne qui a commencé son chemin de sanctification pour aller vers la sainteté. Je pense qu'il est important d'être conscient que lorsque nous nous convertissons, Dieu n'attend pas de nous la perfection de suite. Dieu n'attend pas que nous soyons saints d'un seul coup. D'ailleurs, nous le savons, lui seul est saint. Un chrétien, je le répète, c'est une personne qui est en chemin vers le Christ. Un chrétien n'est pas une personne parfaite, il a de nombreux défauts, mais il accepte que le Christ le transforme de jour en jour pour le porter vers la sainteté. Un chrétien est en marche, il n'est pas en régression, hein. Il est en marche, il devient de plus en plus saint. Quand je regarde ma vie avec un esprit critique, je me rends compte que sans le vouloir, j'ai commis beaucoup de péchés. Et malheureusement, je commets encore aujourd'hui des péchés, et souvent sans m'en rendre compte. En devenant chrétien, nous renonçons à vivre dans le péché, mais cela ne veut pas dire que nous devenons des hommes et des femmes sans péché. Alors j'ai trouvé cette image, hein, elle vaut ce qu'elle vaut, elle a ses faiblesses, elle a ses points forts. J'ai eu cette image en tête du régime. Le jour où j'ai décidé de faire un régime, il m'a fallu du temps avant de prendre de bonnes habitudes. Tout n'est pas devenu d'un seul coup de bonnes habitudes. Et une fois que j'avais ces bonnes habitudes, il m'arrivait de temps en temps de faire des écarts. Et puis, au bout d'un moment, j'étais tellement confiant que je lâchais prise, pour me rendre compte 2 ans ou 3 ans après, que je reprenais du poids et qu'il fallait à nouveau reprendre cette discipline du régime. Et je me dis que nos vies dans la sanctification, quelquefois, ça ressemble à un régime. Au début, il nous faut prendre le temps, il nous faut prendre nos repères en Christ. Déjà, il faut accepter que ce n'est plus moi qui vive, mais c'est que Christ qui vit en moi. Que je renonce à mes propres efforts et que je laisse le Christ grandir en moi. Et puis après, de temps en temps, il nous arrive d'avoir des petits écarts. Et le Seigneur ne nous juge pas, il nous continue à nous tendre la main. Puis quelquefois, on arrive à un stade où on a l'impression d'être des super bons chrétiens, on a l'impression d'être mieux que les autres, et on lâche un peu prise, et l'orgueil nous saisit. Et donc le péché nous saisit. Et après, paf, comme on est ancré en Christ, on se rend compte de notre orgueil et on est reparti sur ce chemin de sanctification. Mais c'est Christ qui continuellement nous aide à progresser. Du coup, si un chrétien n'est pas parfait, il fera forcément des choses qui peuvent blesser ses frères et sœurs en Christ. Ça, c'est quelque chose que j'ai appris. Un chrétien peut blesser ses frères et sœurs en Christ sans s'en rendre compte, parce qu'il est pécheur, parce qu'il peut dire des choses maladroites. Et si Jésus nous invite à pardonner 77 fois 7 fois, ben, c'est qu'un chrétien peut commettre plusieurs fois le même péché. Alors si on est concerné et que l'on ne pardonne pas, cela peut créer de l'amertume, puis de la haine. Oui, de la haine. L'Église, c'est vivre ensemble. Et vivre ensemble, ce n'est pas toujours facile, et il est normal que dans nos Églises, il y ait des problèmes de relations. Qui n'a jamais eu de problème avec sa propre famille? Pour ceux qui sont mariés, qui n'a jamais eu de problème avec son épouse ou avec son époux? C'est des choses, je dirais, normales quand on vit ensemble, d'avoir de temps en temps des petits conflits. Qui n'a jamais eu de problème avec ses amis? Bon, Sophie, c'est bien, tu n'as jamais eu de problème avec tes amis, je m'en réjouis. Mais même moi au scout, hein, souvent on a des soucis. Hein. Et même moi, hein, ça m'est déjà arrivé de blesser des gens sans m'en rendre compte. Vivre ensemble demande des sacrifices et il est important de gérer correctement ces problèmes de relation. Il est normal que nous ayons des problèmes de relations, mais il n'est pas normal de ne pas pardonner et de ne pas faire en sorte que ces relations disparaissent. Voilà, je n'encourage pas à ce qu'il y ait des problèmes dans l'Église, je dis juste qu'il ne faut pas le nier. On dit souvent, en niant le diable, c'est la meilleure façon pour qu'il agisse en nous et qu'il fasse son œuvre. Nier les problèmes, c'est le meilleur moyen que les problèmes deviennent de plus en plus grands. Puis des fois, on a des secrets de polichinelle, tout le monde connaît les problèmes, on les laisse et on continue. Et je pense que ce n'est pas bon. Je le répète, haïr quelqu'un, c'est avoir de la haine pour quelqu'un, et la haine, c'est un sentiment qui porte une personne à souhaiter ou à faire du mal à une autre, ou à se réjouir de tout ce qui lui arrive de fâcheux. Il me semble que tout chrétien peut, hein, c'est pas obligatoire et j'espère que ça arrive rarement, mais peut dans certains cas ressentir de la haine pour son frère, et quelquefois cela peut être légitime aux yeux du monde. Par exemple, si dans une église, il y a un frère et une sœur maladroite et que cette personne passe fréquemment des réflexions déplaisantes et on lui dit d'arrêter, puis elle continue, voilà, parce que tout le monde a ses faiblesses, ben, il se peut qu'elle se fasse mal ou autre, puis que la personne se réjouisse de cela. C'est pas bien, hein, on est d'accord. Mais quelquefois, c'est un sentiment qui est humain, que nous devons placer au pied de la croix pour que Christ nous en débarrasse. Quand des parents ont plusieurs enfants, en général, je dis bien en général parce qu'aujourd'hui plus rien n'est acquis, mais en général, ils leur apprennent à ne pas avoir de la haine l'un pour l'autre. Parce que quoi qu'il arrive, normalement, des parents aiment leurs enfants car ils sont de leur propre sang, ils ne veulent pas qu'ils se fassent du mal l'un à l'autre. Nous aimons nos enfants sans favoritisme et nous voulons le bien pour tous. Et nous ne voulons pas qu'ils se fassent du mal les uns aux autres. Eh bien, nous sommes tous les enfants de Dieu. Donc Dieu ne souhaite pas que nous voulions du mal les uns les autres. Il souhaite que nous nous aimions tous. Mais pour cela, il ne nous laisse pas seuls. Il nous donne son aide. Il vit en nous. Mais revenons à la haine. Comment pouvons-nous avoir un sentiment de haine envers notre frère ou sœur en Christ? Je me suis posé cette question. Et j'ai essayé d'être honnête. Parce que bon, on peut hein, être malhonnête, puis dire non, ça n'arrive jamais, ça, la haine. Ça ne me touche pas. Et après avoir réfléchi, voici quelques pistes de réflexion que je vous propose. Premièrement, je peux peut-être avoir un peu de haine envers mon frère ou ma sœur parce qu'il m'offense ou me fait du mal. J'ai essayé de trouver plusieurs exemples. Voilà, il ou elle répand de la calomnie sur moi, il ou elle est sans arrêt en train de me dénigrer, il ou elle profite de ma naïveté et abuse de ma gentillesse, il ou elle me trahit, il ou elle refuse de me pardonner, il ou elle ne me respecte pas, il ou elle fait du mal à mes enfants ou à mon conjoint, etc., etc. Je pense que la liste est longue. Une personne me fait du mal et refuse d'arrêter. Comment faire pour l'aimer ? Je suis désolé de vous le dire, mais ça arrive dans nos églises qu'un chrétien nous fasse du mal et qu'il n'a pas envie d'arrêter parce que pour lui, il ne nous fait pas du mal. Comment faire ? Mais avant d'aller plus loin, j'aimerais définir ce que c'est qu'aimer son prochain. Car si on n'est pas d'accord sur la définition de l'amour que l'on doit avoir pour notre frère ou sœur, on ne sera pas d'accord sur le reste. Et puisque nous sommes dans le texte de 1 Jean, je vous propose de voir ce que ce livre nous dit sur l'amour. Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu. Et quiconque aime celui qui l'a engendré aime aussi celui qui est né de lui. Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ces commandements ne sont pas pénibles, parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? Tout d'abord, il me semble important de dire que l'amour que nous devons avoir pour tous nos frères et sœurs, ce n'est pas un sentiment ou une émotion, mais ce sont des actes. L'amour que nous devons avoir pour les autres, ce n'est pas qu'une question de sentiment ou d'émotion, car si cela était le cas, il serait difficile, voire impossible, d'aimer un frère ou une sœur qui nous fait du mal. En effet, nos émotions et nos sentiments sont provoqués par une stimulation de l'environnement, toujours d'après le Larousse. Dit autrement, si quelqu'un me fait du mal ou quelqu'un me fait du bien, j'éprouve de bons sentiments et de bonnes émotions. Mais si quelqu'un me fait du mal, ces émotions sont différentes, car elles interféreront avec ce qui se passe autour de moi. Par exemple, si je gifle Patrick, il ne va pas avoir de bonnes émotions. Je pense qu'il va plutôt avoir de très mauvaises émotions. Ouais, et pareil pour moi. Je prends Patrick qu'il est en face de moi. Mais voilà, nos émotions... Ça joue avec ce qui nous entoure. Je me trompe peut-être, hein, mais nos sentiments et nos émotions sont comme des capteurs qui nous permettent de savoir si je suis bien avec telle ou telle personne ou à tel ou tel endroit. Jésus nous dit « Aimez vos ennemis ». Si cela était une question de sentiments ou d'émotions positives, ben, moi, ça serait impossible d'aimer mes ennemis. De vrais ennemis. Pendant la guerre, une personne qui tue votre fils, comment vous pouvez avoir de bonnes émotions envers lui? Quelqu'un qui a égorgé votre enfant, mais comment vous pouvez avoir de bonnes émotions envers lui? C'est pas possible. C'est une question d'émotion. Je prends des cas extrêmes, hein, excusez-moi, mais c'est pour bien montrer la chose. Et là, quand on parle des ennemis, Jésus nous parle des ennemis, à cette époque-là, ils ont crucifié les chrétiens sur des croix. Et puis, en même temps, on les faisait comme des flambeaux pour éclairer les rues. Mais comment ils pouvaient aimer leurs ennemis, c'était une question de sentiment.
Ça serait trop dur, ça serait impossible.
Revenons à ce que le livre de 1 Jean nous dit. L'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Les commandements de Dieu que nous trouvons dans la Bible sont des commandements pratiques et non émotionnels. Jésus résume la loi de Dieu. Voici le premier, écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Voici le second, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que celui-là. Personnellement, je n'éprouve pas de fortes émotions ou de forts sentiments envers moi-même. Quand je regarde dans la glace, je ne suis pas amoureux de moi-même. Et il faut aimer son prochain comme soi-même. Par contre, je prends soin de moi. Je fais attention de ne pas mettre, quand je fais du feu, je fais attention de ne pas mettre ma main dans le feu, quoi. Je prends soin de moi, je fais des choses pratiques pour prendre soin de moi, et c'est en soi que je m'aime. Et pour conclure sur la définition de l'amour que nous devons avoir envers nos frères et sœurs en Christ, c'est de leur faire du bien et de chasser de notre esprit toute mauvaise pensée envers eux. Donc il me semble que l'amour ne s'acquiert pas, mais il se travaille, et quelquefois, toute notre vie. Maintenant, revenons à notre sujet. Comment aimer quelqu'un qui nous fait du mal? Qui nous fait du mal et qui continue? Prenons l'exemple du Christ, le meilleur exemple. Lorsque Christ a été crucifié sur la croix, est-ce qu'il a eu de la haine pour ceux qui l'ont crucifié? Non. Il n'a pas eu de haine pour ceux qui l'ont crucifié, mais il a dit « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. » Quand un frère refuse de reconnaître ses torts, nous pouvons, grâce au Christ, l'aimer quand même. Dans ces conditions, il me semble que nous devons nous sacrifier pour l'autre, tout comme Christ l'a fait pour moi. J'emploie le verbe « sacrifier » car nous allons aimer l'autre alors qu'il ne le mérite pas. Nous allons l'aimer alors que finalement il ne va peut-être pas nous aimer en retour. Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Christ a donné sa vie pour nous car il nous était impossible de mériter son amour. De même, nous ne demandons plus à nos frères ou sœurs en Christ de mériter notre amour. Nous lui donnons en sacrifice, c'est-à-dire sans rien en retour. Nous allons aimer l'autre qui est en face de nous, nous allons lui faire du bien, nous allons chasser de notre tête tous les gros mots ou les injures qu'il peut y avoir, ou toutes les mauvaises pensées, on va les chasser et on va essayer d'avoir de bonnes pensées en Christ. Et en soi, je vais me sacrifier. Parce que l'autre, il va continuer à faire du mal et moi, je vais continuer à l'aimer en Christ. Quand je dis en Christ, c'est-à-dire que c'est vraiment Christ qui va m'aider à le faire. Voilà, pour que ce sacrifice puisse être le moins douloureux possible, il faut s'abandonner en Christ. C'est Christ qui nous donne la force d'aimer. Nous sommes tous différents et certains ont plus de mal que d'autres à se sacrifier. Et si quelqu'un pense que cela lui est impossible de le faire, bon, je l'invite à me contacter pour que nous puissions ensemble en parler, nous puissions prier et pouvoir s'entraider et s'exhorter. Donc ce premier cas, quelqu'un nous fait du mal. Maintenant, un deuxième cas où je peux haïr mon frère ou ma sœur, c'est parce que je l'enferme dans le passé. Je l'enferme dans le passé, je m'explique. Quelquefois, nous avons du mal à aimer l'autre, car nous refusons de croire que cette personne a changé, alors que c'est le cas. Personnellement, j'y vois deux raisons. La première, je n'ai pas pris le temps de parler avec l'autre, et donc de lui pardonner. La deuxième, c'est que je refuse de lui pardonner ses erreurs passées, car je juge qu'elles sont trop lourdes, qu'elles sont trop dures pour moi, et je refuse. Trop souvent, j'ai remarqué que nous ne prenons pas toujours le temps de parler avec nos frères et nos sœurs en Christ qui nous ont fait du mal pour nous pardonner réciproquement. Quelquefois, on refuse d'aller voir l'autre car on a peur de toucher au passé. On a l'impression que l'on va faire plus de mal que de bien en remontant les choses du passé. Trop souvent, nous ne prenons pas le temps de parler avec ceux qui nous ont fait du mal et l'on se dit « c'est pas grave, je peux prendre sur moi ». Du coup, si l'on ne règle pas les choses tout de suite, elles deviennent anciennes et cela peut être par la suite plus douloureux d'y revenir. Alors, je vais peut-être vous choquer, hein. Quand j'ai dit à mon épouse, elle n'était pas tout de suite d'accord avec moi. Bon, je peux me tromper, mais en tout cas, j'ai l'impression que dans nos églises, les demandes de pardon sont peu fréquentes. Car il me semble que dans la majorité des cas, on pardonne, mais on ne le dit pas à l'autre. Quelqu'un m'a fait du mal, c'est bon Seigneur, je le pardonne. Mais je n'ai pas été voir, du coup je ne sais même pas s'il a fait exprès, je ne sais même pas s'il regrette, en fait je ne sais rien, je l'ai pardonné, mais je le laisse dans son passé. Je ne lui permets même pas de progresser. Et puis avec le temps, je l'enferme. Et puis je peux arriver à détester quelqu'un parce que finalement, je n'ai jamais pris le temps de lui pardonner et je cumule tout ce qu'il m'a fait. Je l'enferme dans le passé. Alors bien sûr, hein, on peut se sacrifier, comme je l'ai dit dans le premier cas, mais ça sera un sacrifice inutile, puisque si ça se trouve, la personne, elle regrette ce qu'elle a fait. Donc vous pouvez normalement pouvoir construire une réelle amitié avec cette personne, un vrai amour plus facile. Et quelquefois, c'est difficile de finalement se sacrifier pour quelque chose où il n'y a pas besoin de se sacrifier. Alors, bon, c'est facile à dire, hein, mais tout cas est différent. Mais voilà, prenons le temps de parler avec l'autre et de pardonner réciproquement. Voilà, je vous exhorte à prendre le temps de parler avec amour à vos frères et sœurs qui vous ont fait du mal dans le passé. Le pardon n'est pas une option de la vie chrétienne, mais un commandement. Et Matthieu 6, au verset 14-15, nous dit « Si vous pardonnez aux hommes leur offense, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus. » Maintenant, j'aimerais parler de ceux qui ont du mal à aimer l'autre, car ils refusent de les pardonner pour les erreurs passées. Quelquefois, nous avons du mal à pardonner, car même si l'autre est venu nous demander pardon, ben, nous n'arrivons pas à accepter ce pardon. Et nous estimons que ce qu'il nous a fait est impardonnable. Et soyons honnêtes, quelquefois, à la vue humaine, c'est vrai. C'est vrai. Il y a eu des témoignages de personnes qui ont réussi à pardonner à une personne qui avait tué leur enfant. Et c'est impossible normalement, et on pourrait dire que c'est légitime de ne pas pardonner, mais en Christ il a réussi. La Bible nous dit que nous sommes tous pécheurs et que nous ne pouvons pas par nos propres moyens nous racheter devant Dieu. Nous ne pouvons pas acheter le pardon de Dieu. Et nous sommes rachetés uniquement parce que Christ s'est offert lui-même pour nous. C'est parce que Christ est mort sur la croix que finalement tout le mal que j'ai fait à Dieu peut être pardonné. Prenons le temps de pardonner. Cela nous aidera à mieux aimer nos frères et sœurs en Jésus-Christ. Troisième possibilité d'haïr son frère ou sa sœur, c'est la jalousie. La jalousie. C'est incroyable ça. Quelquefois nous sommes jaloux des autres et cette jalousie peut nous empêcher d'aimer l'autre. C'est incroyable. Hein. On est tellement jaloux de l'autre qu'on n'arrive plus à l'aimer. Et on a un bel exemple dans la Bible, je pense que vous l'avez en tête, c'est de Caïn et Abel. Il y a une jalousie qui va être assez grande. Et cette jalousie va pousser Caïn à tuer son frère. Et donc à ne pas l'aimer, parce que là, il ne fait pas vraiment le bien. Il le tue. Quelquefois, il peut nous arriver de convoiter ce que l'autre a. Et à cause de cela, nous avons du mal à aimer l'autre. Alors j'essaie de trouver un exemple biblique où Jésus peut nous aider. Et j'ai trouvé en Philippiens, chapitre 2, versets 5 à 9, qui nous dit « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a pas regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même en se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. » Jésus n'a pas eu de jalousie durant sa vie. Il n'a pas cherché, quand il était sur terre, à être l'égal de Dieu. Si nous sommes souvent en proie à la jalousie, demandons à Dieu de l'humilité. Et cette humilité nous aidera à être moins jaloux des autres et donc à mieux les aimer. Chers frères et sœurs en Jésus-Christ, aimez tous ces frères et sœurs, je veux dire tous. Ce n'est pas une chose simple à faire. Ou alors, si vous pensez que c'est simple, je pense qu'il doit y avoir de la naïveté en vous. Parce que chaque individu est différent. On a tous nos comportements. J'avais fait une fois une formation en pastorale où on pouvait classer les personnes en différentes catégories selon leur façon d'être. Et alors ils nous expliquaient que telle catégorie avec une autre catégorie va plutôt se confronter et s'énerver. Quelqu'un qui est plutôt lent dans ce qu'il fait, et puis l'autre qui aime bien être rapide, quand ils sont les deux ensemble, ça peut faire des étincelles. Voilà. Et ça demande de l'effort, finalement, pour aimer. Mais cet effort, nous ne devons pas le prendre en nous, mais en Christ. Ça, c'est aussi une chose que j'ai beaucoup apprise dans cette église, en partageant avec Daniel pour les groupes de prière et d'études. Vraiment, c'est en Christ. Ne cherchons pas à faire des tas d'efforts, parce que c'est une question d'être en Christ. Et une fois qu'on est en Christ, peut-être l'effort que nous devons avoir, c'est de lâcher prise. Quelquefois, c'est vraiment le plus dur, c'est je lâche prise. Je laisse Christ agir. Une fois, j'ai une personne que je n'aimais pas trop, et je sentais que le Seigneur me disait, mais aime-le, aime-le. Puis au bout d'un moment, j'ai lâché prise. J'ai dit, oui Seigneur, fais ton œuvre en moi. Et à ce moment-là, je l'ai aimé. Je n'ai pas fait une œuvre, j'ai laissé Christ me façonner. Il faut être vraiment l'argile dans les mains du potier. Se laisser complètement manipuler par le Christ. Pas manipuler, se laisser, pas un bon mot, mais aussi diriger par Christ. Il me semble important de prendre le temps de comprendre, quand nous avons des conflits avec des personnes, d'où vient cette haine. Ensuite, si cela est possible, prenons le temps de parler avec l'autre pour trouver une solution avec lui. Puis quelquefois, ce n'est pas possible de parler avec l'autre ou de trouver une solution. Alors, demandons à Christ de nous aider, de nous porter. Aimer tous ses frères et sœurs en Christ, cela nous demande une certaine discipline. Mais ne regardons pas aux difficultés, mais à Christ. Ayons les yeux fixés sur lui, alors il agira en nous. Et par sa puissance, nous pourrons nous aimer les uns les autres. Prions. Seigneur, j'ai honte, mais cela m'arrive de ne pas avoir de bons sentiments envers un frère ou une sœur en Christ. Alors Seigneur, viens en moi. Aide-moi à lâcher prise. Aide-moi à aimer l'autre comme moi-même. Aide-moi, Seigneur, à aimer l'autre sans rien en retour. Oui, Seigneur, c'est en toi qu'est l'amour. Aide-nous à puiser en toi. Amen.